Chers parents, garantissez la scolarité de vos enfants, quoi qu'il vous arrive, avec l'assurance éducation. Sounou Assurance, notre métier d'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Quand on aborde la question des droits des personnes en situation de handicap, on pense immanquablement à l'accès à l'éducation, à l'emploi. On évoque encore la mobilité, le regard des autres. Alors c'est vrai, ouvrir les portes des écoles, des entreprises à tous, quel que soit le handicap, cela reste encore théorique dans de nombreuses régions du monde. Mais s'il est un droit fondamental qui, peut-être davantage que tous les autres, a longtemps été oublié, voire étouffé, c'est bien le droit à l'aspiration à l'épanouissement sexuel lorsque l'on est aveugle, déficient mental ou tétraplégique. Une santé sexuelle pour tous, mais qui pose dans des termes différents les questions du consentement, de l'intimité ou du libre arbitre. Un droit longtemps étouffé, tabou, même si les choses bougent, les mentalités et les regards évoluent. En 2012, il a fallu un arrêt de la Cour de cassation pour qu'un hôpital psychiatrique français soit contraint d'annuler une clause de son règlement qui interdisait purement et simplement à ses pensionnaires d'avoir des relations sexuelles. Ce droit à une sexualité des personnes en situation de handicap est encore caricaturé ou mal compris, car souvent réduit à des considérations pratiques, à des préoccupations sanitaires qui tendent à gommer sa dimension affective, car c'est bien de désir, de tendresse et de caresse dont il est aussi question aujourd'hui dans Priorité Santé. La sexualité des personnes en situation de handicap. Pour en parler avec nous en studio, Edgar, bonjour.
Bonjour.
Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes réalisateur, vous êtes atteint d'une maladie rare des muscles, l'amyotrophie spinale. Et c'est donc dans votre fauteuil motorisé que vous avez eu la gentillesse de venir jusqu'au studio de Priorité Santé. Et c'est pas toujours très simple lorsque l'on emprunte les transports en commun. Nous retrouverons aussi nos deux invités en direct de Lyon, en duplex des studios de Radio France. Anaïs Soulet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorante en philosophie, vous enseignez les sciences humaines en fac de médecine et vous êtes, Anaïs, sous l'atteinte de cécité, vous êtes aveugle. Toujours à Lyon, François Crochon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sexologue responsable du centre CERES, centre ressources, handicap et sexualité. Et on va retrouver tout à l'heure Fabrice Flageul, praticien en relation d'aide psychocorporelle sur Lyon, membre de l'APAS, l'association pour la promotion de l'accompagnement sexuel. Et nous verrons comment cette question est perçue en Tunisie avec le docteur Myriam Fatmi qui est sexologue à Tunis. En fin d'émission, nous retrouvons la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Et bien sûr, si vous avez des questions, des témoignages, notre numéro 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Alors Edgar, venir parler de sexualité en direct à la radio, c'est pas forcément quelque chose de facile pour vous. Et pour moi non plus, c'est délicat de savoir ce que je peux dire, ce que je peux vous demander sans être intrusive ou maladroite. D'où une question prudente pour commencer. La sexualité représente quoi aujourd'hui, Edgar, dans votre vie ?
Ça représente pas une part énorme de ma vie puisque moi j'ai 19 ans. Donc j'arrive dans ce côté-là de la vie aussi. Et puis étant en fauteuil, c'est vraiment une question qui est un peu tabou pour les gens autour de moi, mais pas forcément pour moi ni pour mes très proches. Mais c'est vrai que la sexualité, ça représente quelque chose qui relève du fantasme parfois pour certaines personnes en fauteuil. Et moi, pour moi, c'est une réalité dans laquelle je suis pas encore forcément rentré complètement, mais ça viendra et ça pose beaucoup de problèmes au quotidien.
Ça veut dire que vous n'êtes pas, pour parler simplement, actif sexuellement, mais il n'y a aucune barrière qui est devant vous, il n'y a aucun interdit, c'est quelque chose pour vous qui va arriver.
Exactement, c'est ça, c'est exactement ça, voilà. Après, c'est vrai que ça, enfin, pour moi, il n'y a pas de problème, mais la plus grosse barrière, elle n'est peut-être pas de mon côté, en fait. Elle est plutôt de l'autre côté, justement, de trouver des partenaires, trouver des gens. Et puis voilà, simplement trouver la bonne personne, on va dire.
Alors vous avez une vie sociale très active, bien remplie, Edgar. Est-ce que vous ressentez ce qu'on pourrait appeler des manques sur le plan de votre vie affective ou sensuelle ?
Non, je dirais pas des manques parce que je pense savoir être patient, puis comblé par autre chose. Une vie sociale, ça peut aussi suffire. Donc du coup, non, pas forcément de manque. Après, je ressens vraiment parfois un manque d'attirance de la personne en face de moi ou un manque d'attention par rapport à ce côté-là. Ça veut dire que moi, je vais avoir une idée derrière la tête, mais je vois que l'autre personne, elle ne peut pas avoir la même idée du fait du fauteuil. C'est vraiment le truc que je ressens le plus souvent.
Dans le rapport de séduction, on va
dire. Exactement. Moi, je peux être dans un rapport de séduction, mais je vois que la personne n'est pas du tout réceptive, non pas... peut-être parce que... pas forcément obligé que ça marche à chaque fois. Mais en tout cas, il y a souvent le côté barrière du fauteuil, barrière du handicap, qui fait qu'en fait, juste, elle ne s'est pas posé la question de est-ce qu'elle pouvait rentrer dans un rapport de séduction avec moi ou pas.
Ça veut dire que vous avez l'impression que certaines personnes ne vous considèrent pas comme un amoureux potentiel.
Exactement, c'est exactement ça. Et c'est le plus compliqué parce que ce serait un peu comme si à chaque fois, avant de pouvoir séduire, il fallait dédramatiser. Donc ça fait déjà deux étapes très compliquées par rapport à quelqu'un qui n'aura pas ce souci-là.
Alors, autre témoignage, autre expérience. Anaïs Soulet, on vous retrouve donc à Lyon. Tout à l'heure, on a parlé, vous m'avez dit de vous présenter comme aveugle, donc je vais reprendre cette expression. Aveugle, étudiante, enseignante et active dans ce domaine de la santé sexuelle. Même question que celle que j'ai posée à Edgar pour commencer il y a quelques instants. La sexualité, ça représente quoi aujourd'hui, Anaïs Soulet, dans votre vie ?
Ben, la sexualité, ça représente beaucoup de choses parce que ça recouvre non seulement ma vie personnelle, parce que j'ai aujourd'hui 26 ans, donc du coup forcément c'est une question que je me pose depuis pas mal d'années et puis qui conditionne un bon nombre de mes relations sociales, que ce soit des enjeux de séduction, que ce soit des enjeux de sexualité à proprement parler dans des rapports intimes, etc. Mais la sexualité, ça représente aussi une grande part de ma vie professionnelle et militante parce que mes recherches en philosophie qui concerne ma thèse porte sur la question de la santé sexuelle et font aussi écho à mes engagements associatifs et militants, à savoir le fait d'être membre d'une association féministe de santé sexuelle. Donc forcément tout ça c'est imbriqué et la manière même dont je pense la question de la sexualité, de la santé sexuelle dans mes recherches, dans ma vie associative est nourrie de mes expériences aussi en tant que personne concernée par un handicap dans la vie de tous les jours. Et typiquement, le fait d'être aveugle m'a amené à me positionner différemment dans les relations de séduction parce que je n'ai pas la même manière d'aborder les corps, d'aborder la question de la séduction et même la question de la sexualité en termes de rapport intime. On se rend compte qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui passent par le regard et moi je vais faire plutôt appel à d'autres sens. Donc du coup ça c'est aussi quelque chose qui m'a permis en fait de réfléchir différemment à la manière dont on peut avoir des relations corporelles avec des personnes et la manière dont tout ça va avoir un impact sur notre vie sociale, sur notre vie personnelle, notre vie intime.
Alors, votre expérience, vos observations aussi en tant que chercheur dans cette dynamique des études, est-ce que vous ressentez une méconnaissance des autres ou plutôt une forme de gêne aujourd'hui, Anaïs Soulet, au sujet de cette sexualité des personnes en situation de handicap ?
Alors, effectivement, la question du tabou de la sexualité des personnes handicapées, c'est quelque chose qui revient souvent sur le tapis. Mais après, on se rend compte que c'est quelque chose dans le champ des sciences sociales qui est souvent traité. Mais après, ça reste à un niveau très théorique et très académique et on va dire inerte. D'un point de vue vraiment des relations personnelles, je me rends compte que il y a une gêne, non pas forcément dans le fait de pouvoir en parler, mais dans le fait de devoir contourner certaines habitudes. Typiquement, dans une relation de drague, il y a beaucoup de choses qui passent par le regard.
Et le compliment peut-être aussi sur le physique.
Exactement. Donc du coup, on va devoir passer par d'autres biais. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident de devoir un petit peu se décentrer vis-à-vis de ces habitudes-là qui ont quand même la vie dure.
Est-ce que ça veut dire que, par exemple, un partenaire, quand vous êtes en situation de séduction, il va peser ses mots, par exemple, pour être prudent sur votre apparence physique en disant, je sais pas, peut-être que comme elle se voit pas, elle va moins être sensible au fait que je lui dise t'es belle, t'es bien habillée, même s'il n'y a pas que ça dans une relation, évidemment. Mais ça compte aussi.
Je pense pas que mes partenaires pèsent leurs mots par rapport à des compliments sur mon apparence, mais vont plutôt peser leurs gestes, on va dire, à savoir comment faire le premier pas. C'est plutôt ça qui va être en jeu, parce que c'est aussi une question que moi-même je me pose, c'est-à-dire que je peux pas faire des appels subtils, quoi. Au bout d'un moment, il va falloir que j'y aille soit avec des mots, soit avec des gestes, en disant bah est-ce que t'es intéressé, est-ce qu'on y va, et c'est plutôt comme ça que il va pouvoir y avoir une gêne liée à un manque d'habitude, liée à un manque de questionnement sur ces thématiques là.
Un autre apprentissage peut-être nécessaire, François Crochon, cette question de la sexualité des personnes en situation de handicap, est-ce qu'aujourd'hui vous diriez qu'elle est perçue différemment, est-ce qu'on en parle davantage?
Alors oui, on en parle davantage. C'est vrai que c'est plus un tabou. Maintenant, il y a des colloques, des courts-métrages, des ouvrages sur cette thématique. Mais comme dit Anaïs, c'est pas forcément évident qu'il y ait dans la réalité de la vie des déclinaisons et des réponses concrètes. En fait, le handicap, souvent, ça induit au sens large un trouble chez la personne qui est en face d'une personne en situation de handicap, parce qu'on n'a pas l'habitude. Et lorsqu'on est troublé, on est mal à l'aise et on a souvent tendance en fait à mettre un couvercle sur ce mal-être là indéfinissable, parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on n'ose simplement pas demander comment intervenir, comment aider, comment communiquer aux personnes. Et donc on peut être dans des contre-attitudes effectivement qui sont énormes. C'est pas forcément que les gens sont méchants, mais ils sont plutôt maladroits en fait. Ils savent pas faire en eux avec ce que ça dépose. En fait, je suis en face d'une personne qui est à la fois si semblable à moi et si différente, et ça peut induire un trouble. Simone Corsos disait que c'est une forme de miroir, le handicap, qui va renvoyer aux personnes un reflet qui est à la fois fascinant et inquiétant. Et puis après, il faut bien se mettre d'accord sur les définitions des mots, parce que comme disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde, et définir à la fois le handicap et la sexualité, qui sont deux termes qui sont pas forcément évidents. Donc Edgar l'a dit, le handicap n'est plus vu aujourd'hui, bien sûr, dans une vision uniquement médicale, binaire, linéaire, mais le handicap se réfère avant tout à un modèle social, c'est-à-dire qu'on va rechercher dans l'environnement des personnes, par rapport à leur choix de vie, leur choix de participation sociale, quels sont les éléments qui vont faire obstacle à la réalisation de leurs souhaits, de leurs désirs, ou au contraire qui vont être des éléments facilitateurs. Et c'est seulement à ce moment-là que la personne sera en situation de handicap si elle rencontre d'obstacles. Et comme ça a été très bien dit par Edgar, c'est que parfois ce sont les personnes en face de nous qui sont les principaux obstacles en fait à la relation.
Je vous disais, pas uniquement perçu en termes médicaux, mais je vous coupe là-dessus, je m'excuse. Juste, on perçoit encore souvent cette sexualité sous un angle de santé reproductive, prévention des IST, empêcher bien sûr des grossesses, et même voir, pour les personnes, on va dire, valides, en termes pratiques, je dirais, en termes de position, qu'est-ce qu'il est possible de faire, impossible de faire, est-ce qu'il faut un équipement? Tout ça, des questions très, très, très matérialistes. On est très loin du sentiment.
Voilà, on est très loin d'une définition juste qui est celle de la santé sexuelle telle qu'elle a été définie par l'OMS en 1975 et en 2001. C'est-à-dire que la définition de la santé, il y a que nous qui pouvons dire si nous sommes en bonne santé physique, psychique, sexuelle. La santé, c'est un état d'équilibre bio, psycho, social. Et ça, c'est très important.
Le bien-être.
Donc, être en bonne santé, c'est le bien-être. C'est ça. Relié à la sexualité pour la définition de la santé sexuelle. Et nous le savons bien, la santé ne se résume pas à l'absence de maladie ou de handicap. Donc c'est très important. On est sur une approche intégrative, ce qui veut dire que la sexualité elle-même ne se résume pas aux pratiques sexuelles, voire à la génitalité, voire dans une vision très hétérocentrée à la pénétration vaginale, par exemple, d'un pénis dans un vagin. Le premier organe sexuel pour les sexologues, c'est le cerveau. c'est nos fantasmes, c'est nos rêveries, c'est notre imaginaire. Le deuxième organe sexuel, c'est la peau, la sensualité, la sensorialité. Et j'ai envie de dire, en troisième lieu, viennent les organes génitaux et le jeu plus ou moins trivial des organes génitaux qui ont quand même quelques bénéfices secondaires, on va pas les sous-estimer, mais ce n'est pas l'essentiel. Et c'est
ça,
vrai que pendant
ça renvoie vraiment à la notion de norme, hein, une norme.
Tout à fait.
On comprend la sexualité comme on a envie de la comprendre, et justement dans cette norme, il y a un tissu très concret, c'est celui des réglementations. François Crochon, il a fallu dans certains cas changer les choses, justement parce qu'il y a des textes notamment qui déterminaient les contours de cet accès à la sexualité.
Oui, tout à fait. Il faut toiletter les textes et puis il faut effectivement que les personnes en situation de handicap puissent exercer leur liberté absolue de s'ouvrir, si elles le souhaitent, à une vie intime, affective, sexuelle et à la parentalité, bien sûr. Je rappelle juste que la sexualité n'est pas un droit opposable. Ce n'est pas un droit opposable comme le droit au logement, par exemple. Si on est à la rue, on peut solliciter des instances compétentes pour trouver un logement d'urgence, etc. Le droit à la sexualité n'existe pas. Par contre, nul ne peut effectivement s'opposer à l'accès à une vie affective et sexuelle. Ça fait partie des droits fondamentaux, des droits humains, et c'est vrai que l'OMS a aussi défini des droits sexuels. Donc il s'agit effectivement que ces droits restent effectifs et que des règlements intérieurs, par exemple dans des établissements ou services sociaux, médico-sociaux ou sanitaires, ne viennent pas entraver cette liberté absolue pour l'ensemble de nos concitoyens, de nos concitoyennes. Vous avez cité l'exemple de Cadillac, hein, où effectivement dans un hôpital psychiatrique en unité pour malades difficiles,
dans le sud-ouest de la France,
voilà, près de Bordeaux, pardon, le règlement stipulait les relations sexuelles sont interdites. Eh bien, un patient, grâce à l'UDAF de Gironde, a porté plainte, effectivement, et il a eu droit à des dommages et intérêts, puisqu'en fait, qu'on dit les juges, ils ont dit que nul ne peut se permettre d'interdire quelque chose qui n'est pas prévu dans la loi du pays, dans le code pénal. C'est un abus de droit, et en ce sens-là, c'est vrai que les personnes doivent faire entendre leur droit, d'où le côté militant d'Anaïs aussi, qui est fondamental pour que ce soit les personnes elles-mêmes qui puissent déterminer ce dont elles ont besoin, ce qu'elles veulent et avec quelle personne elles souhaitent être accompagnées ou travailler ou penser, etc.
Alors le premier accès à la sexualité, c'est bien sûr l'éducation, connaître son corps, identifier ses désirs. Edgar, hein, qui est toujours avec nous en studio, comment est-ce que vous avez appris ce qu'il y avait derrière ce mot sexualité, sensualité? Où est-ce que vous êtes allé chercher l'information? Est-ce que vous en avez parlé facilement, par exemple, avec vos parents?
J'en ai pas tellement parlé avec mes parents, non pas parce que je pense pas que ce soit une gêne ni de moi ni de eux. J'ai pas spécialement cherché. Je pense que franchement, c'est y a peu de jeunes qui vont vous dire ça, mais je pense qu'à l'école j'en avais appris assez. J'avais vite fait compris comment ça se passait. Et après, on va dire que ça me fait penser à un point que vous disiez tout à l'heure, qu'on était très loin des sentiments. Et moi, mon avis, il est inverse. Vous avez tout à fait raison qu'on est très loin des sentiments. Mais d'après moi, rien ne viendra de mon côté s'il n'y a pas de sentiments avant. Il n'y aura pas de sexualité sans sentiments. Ça, c'est ma façon de voir la vie. Et les gens, même en situation de handicap, ont le droit d'avoir une sexualité plus débridée. C'est tout dans
leur liberté.
C'est leur choix, exactement. Voilà, moi, ce n'est pas ma vision des choses. Et après, du coup, je me dis que en allant avec les sentiments, on va certainement moins vite, on va plus progressivement dans des pratiques, donc du coup on a aussi le temps d'apprendre avec quelqu'un, et j'avoue que je suis assez honnête avec les gens avec qui je peux discuter de ça, ou avec lesquels je suis dans un rapport de séduction, que effectivement non, j'ai pas été un don juan, mais ça n'empêche pas plein de choses, tout reste possible, mais il faut pour moi il faut savoir s'assumer en termes de son corps, donc de son handicap. Mais je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Il faut savoir s'assumer avant de pouvoir être dans un rapport aux autres. C'est très compliqué sinon. Donc du coup, moi, je suis arrivé au jour où j'arrive à m'assumer comme je suis. Et j'en suis plutôt heureux. Voilà, j'ai pas de complexe par rapport à ça. Mais il faut réussir à décomplexer la personne en face. Et du coup, en décomplexant, c'est plus simple de lui donner les clés. De lui donner pose des questions, dis-moi ce qui te gêne. Si ça te gêne, je t'explique.
Finalement, c'est vous qui accompagnez l'autre à vous connaître.
Exactement. On n'est pas forcément le plus handicapé dans l'histoire, mais c'est aussi parce que nous, on a plus d'années d'expérience. Donc après, il faut quand même se rendre compte que c'est peut-être moins simple pour une personne qui va aimer une personne handicapée de se dire J'ai fait une rencontre, je l'aime beaucoup, mais bon, j'aurais pu choisir quelque chose de plus simple, quoi. C'est vraiment...
Il va falloir apprendre aussi.
Exactement.
Anaïs Soulet, vous avez perdu la vue à 17 ans. Votre initiation, elle a donc été antérieure à la survenue de cette cécité. Est-ce que vous avez eu l'impression ensuite de réapprendre à faire l'amour ?
Oui, je pense que on peut dire ça comme ça. Et c'est pas que la survenue de la cécité qui a engendré ça, c'est aussi la découverte de la militance féministe et de tout un tas d'autres en fait engagements politiques qui m'ont permis d'assumer le fait que j'avais le droit de découvrir mon corps, que j'avais le droit d'aller rechercher en fait comment ça fonctionne, comment ça peut se passer et comment ça peut se passer aussi en dehors des normes qu'on a l'habitude d'entendre, parce que voilà, François a dit quelque chose de très important tout à l'heure, c'est cette centralité des normes dans la question de la sexualité, et que la sexualité ça dépasse la seule question des pratiques, et du coup la sexualité c'est quand même quelque chose qui va beaucoup définir notre identité. En général, on est catégorisé en fonction aussi de notre orientation sexuelle, de notre manière de pratiquer la sexualité, et le fait en fait de se poser toutes ces questions là le fait de déconstruire un petit peu tous les schémas habituels, ça m'a permis en fait d'avoir un nouveau rapport à mon corps, de découvrir mon corps, et ceci a été accompagné par quelque chose d'extrêmement central et fondamental dans ma vie, c'est que depuis 5 ans je suis praticienne de shiatsu, donc une technique de une thérapie manuelle, on pourrait dire de massage thérapeutique, même si c'est pas proprement du massage, ce serait une mélange d'acupuncture sans aiguille et d'ostéopathie, on va dire. Et cette thérapie manuelle, donc qui passe exclusivement par le sens du toucher, m'a permis d'avoir une sensibilité assez fine et assez riche à mon corps, à ma peau, et fait écho à ce que disait François encore une fois tout à l'heure sur le fait que peut-être que le deuxième organe sexuel, c'est probablement la peau. Et donc du coup forcément quand on passe par une thérapie tactile qui de fait convoque beaucoup la peau et les relations sensuelles à ce niveau-là, forcément on va développer une attention particulière à cette partie-là de son corps, de son intimité. Et moi je sais que depuis que j'ai perdu la vue, que j'ai en même temps découvert le féminisme et le shiatsu, le toucher a une place vraiment fondamentale dans ma vie et dans mes relations intimes, et c'est quelque chose que j'ai envie de partager aussi dans mes relations sexuelles avec mes différents et différentes partenaires.
Edgar, on parle de séduction, on parle de toucher, hein, de beaucoup de sensualité. Est-ce que vous avez l'impression que quand le moment viendra, il n'y a pas aussi une façon peut-être de se mettre pour vous davantage en danger, une confiance énorme qui s'engage? Est-ce que vous sentez par rapport à cette relation physique plus vulnérable?
Alors, vulnérable, je pense pas, parce que du coup, ça dépend du partenaire. Et clairement, oui, en fait, je me sens vulnérable, mais du coup, j'en arriverai pas à cette situation en restant avec le sentiment de est-ce que je vais être vulnérable ou pas. Du coup, ce sera vraiment ça devra être une confiance totale. Mais par rapport, justement, ça passera aussi par le toucher avant. Parce qu'en fait, nous, en étant en fauteuil, on a très peu de contact avec les autres. C'est quelque chose qui est vrai. Les gens peuvent être un peu réticents à nous faire la bise, à nous serrer la main, simplement par manque d'expérience, d'habitude de côtoyer des gens en fauteuil ou avec d'autres handicaps.
Est-ce que c'est quelque chose qui manque au quotidien? Ce rapport physique, tactile, d'intimité physique, chaleur?
C'est pas un manque, mais en fait, du coup, quand ça arrive, il faut savoir contenir. Parce que du coup, si vous allez avoir juste une amie, ou un ami, c'est peu importe votre orientation, qui va, juste venir s'asseoir sur vos genoux, ça peut être quelque chose de totalement sans idée derrière la tête. Et vous, comme vous n'avez pas l'habitude, il faut savoir aussi
interpréter,
se dire moi j'ai pas l'habitude, mais c'est pas parce que ça arrive que du coup ça veut tout dire. Donc oui, c'est un manque dans ce sens-là, mais on n'est pas obligé de le ressentir au quotidien. On peut avoir des scènes un peu énervantes de pas avoir la bise ou se faire serrer la main alors que d'autres devant nous
Le fond.
Mais en tout cas, le manque, il se traduit quand on a finalement quelque chose. Et là, il faut savoir être vachement mature, je dirais presque, parce que du coup, il faut savoir se dire ça veut peut-être dire quelque chose, mais on va d'abord regarder un peu comment ça continue d'évoluer.
François Crochon, quand on aborde cette question de la sexualité des personnes en situation de handicap, certains pensent en termes de désir, d'autres en termes de besoin. Est-ce qu'il y a vraiment cette différence entre les deux ?
Alors ça c'est très important parce que pendant très longtemps on a voulu considérer les personnes en situation de handicap uniquement comme des personnes qui étaient des êtres de besoin et qu'il aurait fallu satisfaire. En gros c'était la vision qu'on avait que les personnes en situation de handicap seraient uniquement objets de soins, objets d'attention, voire un petit peu autrefois objets de compassion. Mais non, là les personnes sont en train de nous dire que ce sont des sujets. Sujet de droit, mais sujet de droit effectif, mais des personnes en situation de handicap sont sujets de désir, à la fois désirantes et désirables. Alors certes, il y a aussi des spécificités, c'est-à-dire que selon le degré de déficience, les difficultés, le niveau de dépendance, etc., les choses ne vont pas s'exprimer. Mais comme Edgar l'a très bien dit, c'est aussi lié à ce que chacun et chacune a envie et souhaite pour orienter sa vie affective et sexuelle. La sexualité, si vous voulez, ce n'est pas quelque chose d'inné, de naturel. Ça s'apprend. Ça s'apprend comme on fait du vélo en termes d'habiletés psychosociales qui ont été très bien décrites par Edgar, par exemple. Bah, savoir comment on réagit à quelqu'un qui est proche de nous, etc., qui nous touche. Et tout ça, c'est socialement construit et psychologiquement construit. Donc ça veut dire que il faut que chacun et chacune d'entre nous, qu'on soit en situation de handicap ou non, on fasse nos propres expériences. Or, vous avez utilisé le mot vulnérable et parfois, on a tendance à surprotéger les personnes en situation de handicap et à ne pas leur laisser la possibilité d'expérimenter par elles-mêmes, de faire leurs propres essais, leurs propres erreurs. Or, si aujourd'hui, nous tous et nous toutes, dans notre vie intime, affective et sexuelle, on sait à peu près ce qu'on aime, avec quelle personne, à quelle fréquence, quelle pratique, etc., eh bien, c'est parce qu'on a procédé par essai-erreur. On a fait plein d'essais fantastiques, positifs, quelques essais qui étaient moins sympas. Et aujourd'hui, ça nous permet de comprendre ce qu'on souhaite. Mais surprotéger les personnes au prétexte qu'elles seraient éternellement vulnérables, en fait, c'est surhandicaper les personnes. C'est ça qui est très important à comprendre, à la fois pour les professionnels, mais aussi pour l'entourage, la famille, les amis aussi. Hein. Et je crois qu'il y a une autre chose qu'il faut dire, c'est qu'il faut sortir d'un regard trop valido-centré. Hein, comme si les personnes en situation de handicap seraient des personnes incomplètes, etc. Or non, elles ont beaucoup de choses à nous apprendre, nous, hein, qui nous, disons, valides, entre guillemets, bien entendu. Et il faut sortir de ce principe binaire où on est là pour accompagner, pour aider les personnes. Non, moi, tous les jours, les personnes en situation de handicap m'apprennent sur ma vie en général, mais également sur ma vie intime, affective et sexuelle. Les personnes ont des compétences.
Et il y a donc cette question du besoin, du désir sexuel aussi, avec, on en parle pas mal dans l'actualité, hein, des rendez-vous sensuels avec des professionnels pour en parler. On retrouve tout de suite en ligne Fabrice Flageul. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes praticien en relations d'aide psychocorporelle, là encore à Lyon, membre de l'APAS, l'association pour la promotion de l'accompagnement sexuel. On va commencer tout simplement par une définition. Qu'est-ce que c'est ce terme d'accompagnant sexuel ?
L'accompagnant sexuel, eh ben ma démarche, c'est de répondre à une demande sensuelle, voire sexuelle, de personnes en situation de handicap qui n'ont pas la possibilité de vivre de la sensualité, voire de la sexualité, tout simplement.
Donc, et vous avez justement cette formation, c'est comment ça se passe, sur quels critères on peut devenir accompagnant sexuel, et puis de l'autre côté, du côté de la demande des personnes avec qui vous allez entrer en relation, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes et qui sont les demandeurs?
Donc moi personnellement, je suis déjà dans cette démarche de relation d'aide depuis très longtemps. Je n'avais pas encore franchi le pas d'aller jusqu'à l'acte sexuel dans ma pratique, mais depuis 3 ans après cette formation à la PASS, je propose donc cette démarche d'aller jusqu'à la relation intime. Donc les critères de base, ben je sais pas, il faut déjà bien aimer l'humain, bien se connaître personnellement, parce que forcément quand on rentre dans l'intimité, on peut pas faire n'importe quoi, faut vraiment être très vigilant. Donc bien savoir gérer ses émotions, gérer les émotions qui en face, et être bien à l'écoute et bien être capable de répondre à la demande.
Fabrice Flageul, comment est-ce que vous désignez les personnes avec qui vous entrez en relation, client, patient, amant?
Alors, on utilise le terme d'accompagner.
Accompagner.
Voilà, accompagner. tout simplement. C'est pour ça qu'on a pas, on a vraiment ce statut d'accompagnant et non pas d'assistant, comme on peut l'entendre dans d'autres démarches, ce qui est plus égalitaire, je trouve. Et donc moi, je réponds aux demandes féminines au niveau de l'accompagnement, autant dans ma pratique professionnelle de massage, puisque je suis surtout masseur, donc spécialisé dans le tantrique, donc là je pratique aux valides et aux hommes handicapés, mais dans l'accompagnement complet, je m'adresse qu'aux femmes, chacun a ses limites, on va dire. Donc la demande féminine est beaucoup moindre, officiellement en tout cas, que la demande masculine. Il y a beaucoup plus d'accompagnantes féminines que d'accompagnants masculins, qui correspond un peu, je dirais, aux critères de la société actuelle, hein, ou classique, on va dire, où les hommes assument peut-être plus ce besoin de demande de sexualité que les femmes. En tout cas, le constat est là.
Fabrice Flageol, ces séances sont tarifées, hein, ça a un prix.
Oui, bien sûr,
et votre activité d'accompagnant sexuel, aujourd'hui, si on regarde les textes de loi, cette activité est assimilée à de la prostitution. D'ailleurs, votre association, La Passe, milite pour que ça change. Comment vous assumez justement ce regard d'une société qui finalement criminalise votre activité?
Alors moi, effectivement, ce terme de prostitution ne me dérange pas. C'est juste que derrière ce mot, effectivement, comme vous dites, on a un regard très négatif sur cette démarche. Alors que pour moi, la prostitution, je dirais même pour les valides, est tout à fait, devrait être beaucoup plus encensée, parce qu'elle est indispensable dans notre société. Donc moi, le terme ne me dérange pas. Je voudrais juste quand même faire une différence où, dans une démarche de prostitution classique, la relation est quand même assez rapide et je dirais, on prend pas autant de temps que dans un accompagnement. C'est-à-dire qu'avant de pratiquer, de faire vraiment une rencontre avec l'accompagné, on va déjà passer beaucoup de temps au téléphone pour vraiment être sûr de correspondre et de bien entendre la demande. On préconise même de se rencontrer en amont, hein, dans un endroit neutre, pour discuter et voir si on va plus loin. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc il y a quand même une grosse différence entre de la prostitution classique et de l'accompagnement. Déjà, pour moi, ça fait une grosse différence. Et même après, je reste toujours disponible. On peut toujours me téléphoner après pour discuter, parce que moi, je prends aussi des nouvelles pour savoir comment ça va et si ça a apporté quelque chose, si on continue. Enfin, il y a vraiment un suivi, il y a toute une démarche globale dans cette approche qui est très, très différente de la prostitution.
Merci beaucoup Fabrice Flageol pour ces explications. Je rappelle que vous êtes praticien en relation d'aide psychocorporelle sur Lyon, membre de la PASS. Cet accompagnement sexuel, François Crochon, ça peut aussi ne pas impliquer directement le contact. Ça peut être une aide, ça peut être dans un couple qui est par exemple en situation de handicap, intervenir pour, on va dire, faciliter la relation, le contact.
Tout à fait. Donc là, effectivement, il s'agit de réfléchir en termes de compensation, hein, par rapport à des personnes qui n'ont pas forcément accès au même niveau de participation sociale du fait de limitations qui sont dues soit à des critères physiques ou psychique. En fait, on est dans l'expression de la loi du 11 février 2005 en France, qui s'appelle la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation sociale et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. La démarche, c'est une démarche qui est inclusive, fondée sur les droits des personnes à accéder au même niveau de participation sociale que n'importe quel citoyen ou citoyenne. Et ce qui est important, c'est de repérer que pour des personnes, c'est plus compliqué, effectivement, et ça veut dire qu'il faudra une aide. Une aide, peut-être, pour une aide à la masturbation pour des personnes qui sont tétraplégiques. Et là, il ne s'agit plus de frustration sexuelle, mais de privation totale, puisqu'elles n'ont pas accès à leur propre corps. Une aide également pour des couples, par exemple, qui pourraient être limités dans leurs ébats, leurs pratiques sexuelles, et qui ont besoin d'un accompagnant, d'une accompagnante ou de deux, pour pouvoir se retrouver simplement dans le lit et choisir ce qu'elles font. Et là, il ne s'agit pas d'une implication corporelle ou sexuelle, plutôt, de l'accompagnant ou de l'accompagnante, mais simplement d'être dans un rôle de facilitateur, facilitatrice. Et ça, c'est très important. De permettre aux personnes d'accéder à leur désir, alors que les limitations leur en empêchent complètement du fait de leur situation de handicap.
Mais si on très très pratique, Edgar, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'accompagnement sexuel? Est-ce que c'est constructif ou c'est pas pertinent? Je parle pour vous, hein, je parle pas pour tout le monde.
Alors, pour moi, ça me fait... c'est pas du tout rigolo, mais moi, ça me fait beaucoup rire, parce que ça me rappelle une anecdote que j'ai, c'est que pendant que j'étais mineur, à partir de mes 16 ans, tous mes copains masculins me disaient, parce qu'avant ça n'existait pas en France, c'était que à l'étranger.
Ça existe aux Pays-Bas et en Suisse, notamment.
Voilà. Et du coup, moi j'habite dans le sud à la base, et du coup tous mes potes me disaient, le jour de tes 18 ans, on part en Suisse et on va avoir une aidante. Et justement, ça revient à ma relation avec ça, c'est que je disais, mais non, c'est pas mon envie, c'est pas comme ça que j'ai envie de découvrir ça. Et du coup, les témoignages de Fabrice, c'est ça qui disait, voilà, sa façon de faire, je trouve ça très important. Alors moi, je vais donner mon avis d'une façon assez crue. Pour moi, c'est une façon assez excentrique d'arriver à la sexualité, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui peuvent y arriver facilement dans la vie sociale.
Mais peut-être le terme facilement est un petit peu...
Plus facilement, je veux dire qu'en tout cas, avec un partenaire qui n'est pas là pour une relation avec un tarif, en tout cas qui ne s'attarde pas que sur le côté handicap. Parce que là, du coup, il y a quand même le côté... Ouais, on n'y vient que parce qu'on est handicapé, on ne peut pas y venir en n'étant pas handicapé. Du coup, je trouve que c'est très bien, parce que ça va un peu loin pour les gens, ça peut choquer des gens. Mais du coup, ça permet de faciliter le côté plus normal de la chose. C'est toujours un peu ça, c'est quand il y a un extrême, ça veut dire qu'il y a un noyau central où on se dit, puisqu'il y a des gens qui vont vouloir accompagner des gens en fauteuil, ça veut dire que...
Ça exprime un réel besoin.
Voilà, et donc ça veut dire que, ils peuvent, en fait. Ils peuvent, ils veulent. Du coup, je trouve ça très, très bien. Après, personnellement, c'est pas forcément la façon dont j'aimerais découvrir les choses, ni la pratiquer. Ensuite, par contre, ça peut être très important, je trouve, sur le côté, quand on est en couple, permettre aux deux conjoints, peu importe, de découvrir et d'avoir des conseils ou carrément une mise en pratique plus simple. Parce que tout à l'heure, vous parliez de comment on fait, quelle position, tout ça. Et je pense que c'est, pour les deux personnes, quelque chose de très compliqué parce qu'on ne peut pas faire une mise en situation avant d'arriver au jour J ou en tout cas avant d'arriver à tous les jours. Puis se renouveler. Enfin, il y a beaucoup de couples qui aiment bien se renouveler. Donc, quand on est handicapé, qu'on ne peut faire que d'une seule façon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de renouvellement possible. Donc, il faut aussi savoir... tenir en couple avec ça, donc ces gens-là peuvent aussi servir à ça, je pense.
Rapidement, Anaïs Soulet, je m'excuse parce qu'on doit rejoindre la Tunisie dans quelques instants. Votre point de vue sur cette question de l'accompagnement sexuel ?
Alors, à titre personnel, je ne suis pas concernée et je ne ressens pas le besoin de faire appel à ça. Par contre, à titre plutôt politique et militant, je trouve que effectivement c'est très intéressant et même important que ça existe, parce que même si effectivement ça pose la question de la tarification de l'acte sexuel, etc., etc., mais ça remet bien en perspective que dans notre société, les normes sont parfois tellement fortes qu'il est difficile aussi d'avoir accès à une sexualité quand on est une personne en situation de handicap, parce que les partenaires valides vont se bloquer, vont se limiter dans les relations de séduction et dans les relations intimes. Ce que disait Edgar tout à l'heure, c'est souvent dans ce genre de situation, c'est les autres en fait finalement qui sont handicapés et qui se handicapent eux et elles-mêmes. Et du coup, finalement, l'accompagnement sexuel, je pense que ça peut être une alternative à ça, et ça peut être une manière aussi de découvrir son propre corps, de découvrir celui de l'autre. Et je pense qu'à ce titre-là, oui, c'est quelque chose qui me paraît assez indispensable dans la société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui.
On poursuit notre débat tout de suite, et on va partir pour la Tunisie.
RFI.
Vous retrouvez docteur Myriam Fatmi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sexologue à Tunis. Est-ce que personnellement vous avez eu à travailler, l'occasion de travailler sur cette question de la sexualité des personnes en situation de handicap avec vos patients ?
Oui, j'ai eu l'occasion de travailler, en particulier je citerai, avec un jeune homme de 27 ans qui, à la suite d'un accident de la République, a présenté une paraplégie. Donc, qui était handicapé et qui, malheureusement, il faut savoir que cet accident est survenu une semaine après son mariage. Donc, la prise en charge, une fois les lésions stabilisées, a été la prise en charge du couple, en fait, afin de restaurer la fonction sexuelle qui joue un rôle majeur dans la réintégration du concept de santé physique et mentale, tel que décrit par l'OMS.
Voilà. Et ça s'est passé en recevant les deux conjoints, justement, ce retour ?
Les deux conjoints. Oui, les deux conjoints. J'ai eu l'occasion surtout de recevoir Madame toute seule à plusieurs reprises pour des explications autour de cette nouvelle situation, pour une rééducation sexuelle, en fait, du couple. Et afin de, d'expliquer que la paraplégie ne signifie nullement une privation de la sexualité.
Et justement, ça a été une fonction d'initiation, sans rentrer dans le détail ou dans quoi que ce soit. Ce couple a pu avoir une vie affective et sexuelle. Ce couple a pu poursuivre son projet de vie commune.
Ah oui, il a poursuivi son projet de vie commune grâce à la sexothérapie, à une prise en charge aussi multidisciplinaire. Il y avait aussi, ils ont été pris en charge aussi par un psychiatre parce que il y a aussi un grand sentiment de culpabilité en fait qui s'est développé chez mon patient. Suite à cette nouvelle situation d'handicap, il y a aussi le regard aussi de la société qu'il fallait aussi appréhender parce que être handicapé, marié et surtout que ce couple voulait avoir un enfant, chose qu'ils ont fini par avoir. Ils ont eu un petit bébé, un petit garçon. Donc être aussi parent handicapé. Il fallait aussi qu'il soit pris en charge aussi de ce côté-là.
Merci beaucoup. Hein. Merci, docteur Myriam Fatmi, pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes sexologue à Tunis. Un témoignage, c'est celui d'un auditeur, Michel, à Kinshasa. Une vision un petit peu moins, on va dire, positive de ce qui lui est arrivé, parce que Michel explique qu'il avait une maladie dégénérative. Il ne marche plus depuis 2017, en fauteuil roulant. Donc, en 2015, il avait une conjointe, mais sa sexualité a changé par rapport à cet état. Et elle n'a pas supporté ce handicap, elle l'a quitté. On voit quand même avec cette illustration que les choses ne sont pas toujours simples. En tout cas, on l'a compris depuis cette émission, moins de tabous sur cette sexualité des personnes handicapées. Il nous reste peu de temps, François Crochon. Une simple question, quand on est handicapé, qu'on a envie de parler de sexualité, à qui s'adresser ?
À la personne avec laquelle on a le plus d'affinité, où on est le plus à l'aise, ça peut être effectivement son conjoint, sa partenaire, ça peut être effectivement sa famille, son entourage, ou des associations, hein. Il y a beaucoup d'associations aussi qui se créent, mais ça peut être tout simplement pousser la porte d'un sexologue ou d'une sexologue. Il faut savoir que tous les sexologues ne sont pas forcément médecins, et que du coup on peut prendre le temps aussi, hein, d'évoquer tout ce qu'on a évoqué, en particulier quelque chose qui me paraît très important, c'est l'estime de soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sexualité s'il n'y a pas d'estime de soi. Donc si les personnes, lorsqu'on va effectivement travailler l'estime de soi, qu'elles vont pouvoir avoir des lieux d'écoute pour déposer ce qu'elles ont en tête, mais aussi de trouver des informations qui soient adaptées, c'est fondamental. Et puis dernière chose, je crois qu'il est très important de ne jamais confondre l'autonomie et l'indépendance. Hein. Il faut renforcer l'autonomie des personnes en situation de handicap. L'autonomie, c'est choisir par soi-même. L'indépendance, c'est faire par soi-même. Et il y a une grande différence entre être en capacité de choisir par soi-même et de faire par soi-même. Donc il s'agit de ne pas se centrer uniquement sur les problèmes, mais de se centrer beaucoup plus sur les solutions. Et pour ça, il y a beaucoup de professionnels de santé et d'accompagnement, voire des associations, des militants, des militantes qui sont
comme on l'a entendu dans cette émission. Merci beaucoup François Crochon, sexologue donc à Lyon, estime de soi, illustré par nos deux invités avec nous en studio. Merci, hein, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Edgar, et merci aussi à vous, Anaïs Soulet, également à Lyon, doctorante en philosophie. Très bonne journée à tous les trois. On va parler alimentation santé avec vous, Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Alors aujourd'hui, Stéphane, on va distinguer deux notions importantes, hein, lorsque l'on souhaite avoir une alimentation équilibrée, pour faire bien la différence entre l'index glycémique et la charge glycémique. On va commencer, Stéphane, par une petite définition. L'index glycémique d'un aliment, c'est quoi exactement ?
Alors, l'index glycémique a été inventé en 1981 par David Jenkins de l'Université de Toronto. Alors, c'est un index qui permet de mesurer l'élévation de la glycémie, c'est-à-dire du taux de sucre dans le sang, et qui, donc, suite à l'ingestion d'un aliment, et qui va permettre de montrer quel est l'impact de cet aliment, justement, sur l'élévation de la glycémie. Alors, cette élévation, elle est comparée contre soit du glucose, soit du pain blanc, hein, pour montrer bien la charge que ça représente. Et il y a trois critères qui vont être utilisés, une élévation faible, une élévation moyenne et une élévation forte. Alors, si l'index glycémique est inférieur à 55, comme pour les fruits, le yaourt ou les légumineuses, on dit qu'il est faible. S'il est entre 55 et 70, comme par exemple la carotte ou l'ananas, on va dire qu'il est intermédiaire. Et s'il est au-dessus de 70, c'est le cas du pain et de nombreuses céréales, on va dire que cet impact sur la glycémie est fort.
Alors Stéphane, est-ce que c'est vraiment utile de connaître justement ce chiffre, ce fameux index glycémique, pour améliorer son alimentation ?
Alors, comme souvent en nutrition, un peu une réponse de Normand, oui et non. Alors, oui, sur le plan fondamental, parce que l'index glycémique va quand même être important, parce que plus l'élévation de la glycémie est forte quand on mange, plus le besoin d'insuline est fort. Donc là, il y a un vrai impact. Donc, c'est intéressant de savoir un peu comment l'aliment lui-même va réagir. Alors, on sait aujourd'hui aussi que toutes les études qui ont été faites en isolant un aliment à index glycémique bas, régime à index glycémique bas, a produit des résultats intéressants sur la prévention de maladies cardiovasculaires, de diabète et certaines formes de cancer. Ça, c'est le côté, j'allais dire, oui, positif. Alors après, là où il faut modérer, c'est qu'on sait aujourd'hui que beaucoup de médecins, beaucoup de nutritionnistes savent que on mange pas un aliment isolé et suivant la forme de préparation aussi, suivant à quoi il est accompagné, ça va changer cet index glycémique, ce qui fait qu'il y a des variations très très fortes.
Et comment on l'explique justement que pour un même aliment, il puisse y avoir différents index ?
Alors, tout simplement parce que l'aliment, suivant sa forme de préparation, déjà dans sa forme, le pouvoir, j'allais dire, l'élévation de la glycémie va changer. L'autre chose aussi, c'est que l'aliment, il est jamais mangé seul. Donc, quand on teste un index glycémique seul et qu'après on rajoute une sauce ou on rajoute autre chose, ça change. Par exemple, avec certaines sauces, on va avoir un retard de la vidange de l'estomac qui va se faire et du coup, l'index glycémique va être plus bas. Nous, on a beaucoup travaillé aussi, par exemple, sur les céréales en Afrique de l'Ouest, si on prend le mil par exemple, on va avoir un index glycémique du mil qui va être aux alentours de 55 s'il est en couscous. Et si on change sa forme, qu'on le met en farine et en pâte, ce qu'on appelle le tour en Afrique de l'Ouest, on va avoir une très forte élévation puisque l'index glycémique monte à 70. Parce qu'en fait, comme on a cassé les grains, l'amidon est plus accessible et donc ça change. Donc ce que ça veut dire, c'est que l'index glycémique, en gros, ça donne une idée sur la qualité des sucres, mais ça donne pas une vraie idée sur la quantité. Donc il faut souvent relativiser ça, c'est très important.
Alors de l'index, on passe à la charge. Stéphane Besançon, c'est quoi précisément la charge glycémique ?
Alors c'est un indice qui a été défini par Walt Willett à l'université de Harvard cette fois-ci, donc on passe aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se calcule en prenant l'index glycémique, donc le côté qualitatif, multiplié par la réalité de la quantité de sucre et divisé par 100. Donc ce qui est intéressant là-dedans, alors après, l'échelle est ce qu'elle est, c'est-à-dire inférieure à 10, on va dire que c'est faible, modéré entre 11 et 19, et très important, supérieur à 20. Alors, ce qu'il faut retenir là, ce qui est important, c'est que ça repondère, j'allais dire, le côté élévation de la glycémie par rapport à la réalité de la quantité de sucre qu'il y a dans un aliment. Et ça, c'est extrêmement important. Et il y a un exemple qu'on prend tout le temps, c'est la pastèque. Donc la pastèque, elle est classée dans les aliments à index glycémique très haut. Alors les gens se disent, oulala, je vais surtout pas manger de pastèque, ça lève. Mais quand on regarde la quantité de sucre qu'il y a dans une pastèque, la quantité de sucre est très 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 faible. Et donc c'est ce qui fait que la pastèque a une charge glycémique très faible. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup on se rend compte que cet aliment est plutôt pas nocif du tout à consommer. Et du coup c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et aujourd'hui on prend de plus en plus en compte la charge glycémique contre l'index glycémique pour ramener à la réalité du sucre qui est contenu dans l'aliment.
Donc ça veut dire que si on veut limiter l'apport en sucre, on est plutôt charge qu'index.
Tout à fait. De plus en plus, les gens ont tendance à rappeler la charge glycémique. Parce que si on prend que l'index pour la pastèque, il faudrait comparer par rapport à des tonnes et des tonnes de pastèques ingurgitées. Or, personne n'arrive à manger cette quantité-là.
Oui, ça risque quelques petits maux de ventre. Merci beaucoup, Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali. Et Priorité Santé touche à sa fin. On se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui garantit à tous les parents du monde la scolarité de leurs enfants, quoi qu'il arrive. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.